Europe 1. Bienvenue dans les interviews d'Au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Je suis Virginie Giraud. Comment travaillent les romanciers qui s'attaquent à des sujets historiques? Comment relater la grande histoire en la mêlant à la fiction? Et comment s'autorise-t-on à remplir les vides laissés par les sources? Voilà autant de questions que j'ai envie de poser à la romancière Catherine Bardon. Depuis l'écriture de la saga Les Déracinés, son premier ouvrage de fiction, Catherine Bardon sillonne la République dominicaine pour comprendre comment des destins hors du commun ont façonné l'histoire de ce pays. Dans son dernier roman, Une femme debout, publié aux éditions Les Escales, Catherine Bardon retrace la vie de Sonia Pierre, grande avocate, militante des droits humains, qui a œuvré toute sa vie pour défendre les citoyens haïtiens qui ont longtemps été persécutés en République dominicaine. Pour comprendre comment travaille cette écrivaine sur des sujets historiques, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour un entretien spécial Catherine Bardon. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, Catherine Bardon, tous vos livres parlent de la République dominicaine. D'où vous vient cette passion pour cette île ?
C'est une rencontre ordinaire, une histoire ordinaire finalement. Un coup de cœur pour un pays, pour une terre, pour un peuple, et qui s'est confirmé au fil des ans. Et effectivement, depuis une trentaine d'années, j'y passe beaucoup de temps.
Votre premier livre, Les Déracinés, parle donc d'un épisode historique assez peu connu de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où le dictateur Rafael Trujillo signe des accords avec les autorités américaines pour accorder 100 000 visas à des juifs qui fuient l'Europe en guerre. Bon, on sait historiquement qu'en fait il n'en a pas reçu 100 000, mais quand même, ça a permis de sauver des vies. Pourquoi un dictateur des Caraïbes accorde-t-il l'asile à des juifs européens ?
Pour tout un tas de mauvaises raisons. Pour se refaire une image acceptable auprès des Américains, parce que le pays est dans la sphère d'influence des États-Unis, et que Trujillo vient d'assassiner, de commettre génocide, en fait, en assassinant une vingtaine de milliers, peut-être une trentaine de milliers d'Haïtiens à la frontière avec Haïti.
C'est le massacre du Persil, sur lequel on reviendra.
Oui, pour des raisons financières, puisqu'il a fait payer chacun des visas et qu'il a vendu la terre qu'il a offerte, entre guillemets, à ces migrants juifs, pour développer économiquement son pays aussi, en faisant venir dans le pays des gens formés, des gens éduqués, et pour un projet financé par les Américains. Donc en fait, pour lui, il était gagnant sur tous les tableaux.
Donc on ne peut pas penser une seule seconde que Rafael Trujillo pourrait être un juste parmi les nations.
Non, absolument pas. Non, toutes ses motivations étaient des motivations politiques, personnelles, financières et probablement jamais humanitaires.
Pour travailler sur ce sujet, les déracinés, est-ce que vous avez eu accès à des archives déclassées, à des documents que personne n'avait consultés avant vous ?
Je ne sais pas si quelqu'un les avait consultés avant moi. Ils étaient accessibles, en tout cas. Oui, j'ai travaillé avec les archives du Joint, donc l'organisme de tutelle du projet d'Orsa, le projet qui donc a fait venir ces émigrants, et a développé la communauté de le kibbutz de Sossois. Donc les archives de la Dorsa, mais également les archives de cette communauté sous forme d'un musée virtuel avec beaucoup de documentation photographique, la mémoire aussi des quelques pionniers que j'ai rencontré, qui était encore en vie il y a une trentaine d'années, et puis également les archives dominicaines et les archives des journaux dominicains. Donc c'est un travail de recherche, documentation assez classique finalement. Donc j'ai eu accès très facilement finalement à toutes ces archives. Il suffisait de se faire ouvrir les portes pour y accéder.
Ce qui n'était peut-être pas si simple que ça.
En réalité, non. En réalité, ça n'a pas été très compliqué. Non. Simplement, il fallait pousser les bonnes portes, et une porte en ouvrant une autre. Bon, c'est vrai que ça a été un long travail de recherche, mais ça n'a pas été si compliqué que ça. Je dirais plutôt long et fastidieux.
Donc c'est un marathon. Mais alors, venons-en justement à ce travail de romancière historique que vous faites. Dans quelle mesure vous vous autorisez à laisser une place à votre imagination ?
Dans toute la mesure du possible, j'ai retenu une phrase de mon éditrice qui m'a dit un jour, le romancier a tous les droits. Donc effectivement, le droit de remplir des blancs, le droit de créer des personnages fictifs pour porter l'histoire, pour être un contrepoids par exemple à des personnages ayant existé, le droit de se mettre dans leur peau, d'imaginer leurs sentiments, leurs pensées, et puis c'est assez vertigineux finalement de s'autoriser ça, donc ça laisse l'imagination travailler et C'est formidable.
Alors bien sûr, quand on est historien, on envie la liberté du romancier historique. Mais pourquoi justement avoir choisi cette branche-là, outre tous les attraits évidemment qu'on ressent tout de suite, plutôt que le documentaire ou le livre d'histoire classique, puisque vous aviez déjà fait toutes les recherches?
Mais d'une part, je ne suis pas historienne. D'autre part, je dirais, j'écris comme je lis, c'est-à-dire que j'aime lire des romans d'aventures, des aventures humaines, et des romans qui m'apprennent des choses ou qui me donnent envie d'aller plus loin sur un sujet, d'approfondir les choses. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire dans mes romans, c'est-à-dire que la forme du roman me semble la plus simple, la plus facile, la plus adéquate pour communiquer une histoire et faire en sorte que le lecteur se l'approprie au travers de personnages notamment et au travers d'une écriture qui n'est pas aussi froide peut-être ou sèche que celle d'un historien.
Vous avez le droit à davantage de sentiments que nous, c'est pour ça que je vous envie. D'ailleurs, l'un de vos livres porte sur la fille de l'ogre, Flore de Oro Trujillo, la fille du dictateur Rafael Trujillo. Nous avons nous-mêmes au cœur de l'histoire, en partenariat avec vous, fait un double récit à son sujet, que j'ai trouvé absolument passionnant, parce que ça ouvrait les portes aussi sur Rafael Trujillo et surtout son entourage. Pourquoi vous, en tant que romancière, vous avez choisi Flore de Oro et pas l'une des concubines de Rafael Trujillo ou Trujillo lui-même?
Ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est ça. Ce que j'ai voulu étudier, en fait, comprendre, c'est la relation d'un enfant à son père et à un père monstrueux. Comment on peut se construire quand on est une petite fille, une jeune fille, une femme, et que on a un père monstrueux. Et ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre ce gouffre dans lequel est tombée cette femme, c'est-à-dire aimer son père, être en quête permanente de son amour et détester l'homme qu'il est. Comment est-ce qu'on peut se construire comme ça? Et donc, au travers du portrait de Flore et de la construction ou de la déconstruction de sa vie, c'est aussi une façon d'aborder la dictature, pas d'un point de vue politique, pas d'un point de vue historique, mais d'un point de vue plus intime, en se penchant sur les relations de ce dictateur avec les membres de sa famille, et notamment cette petite fille qui m'a émue dès que j'ai fait sa rencontre.
Dans votre dernier ouvrage, Une femme debout, vous abordez le destin de l'avocate Sonia Pierre, qui est elle-même d'origine haïtienne et qui s'est battue pour les droits des Haïtiens en République dominicaine. Comment avez-vous fait la connaissance de ce personnage ?
Alors, j'ai rencontré Sonia Pierre de façon complètement virtuelle, je dirais, puisque je ne l'ai jamais rencontrée physiquement, malgré...
Elle est morte au début des années 2000.
Oui, c'est ça. Malgré les multiples tentatives que j'ai faites pour la rencontrer, je n'ai jamais réussi à la rencontrer. Et après avoir écrit le roman, j'ai compris pourquoi je ne l'avais jamais rencontrée. C'est une femme extrêmement occupée qui voyageait aux quatre coins du monde pour se faire la voix des Haïtiens en République dominicaine et de son combat contre l'apatridie. Et donc, je l'avais rencontrée lors de la rédaction d'un livre qui s'appelle Termétis, qui raconte la République dominicaine et où je faisais un certain nombre de portraits, et au fil des rencontres, on m'a suggéré le portrait de cette femme que je n'ai jamais rencontrée, que je n'ai rencontrée que plus tard au travers de mes recherches documentaires.
Écrire un roman sur un personnage, c'est passer du temps avec ce personnage, c'est rentrer un petit peu dans sa peau. Qu'est-ce qu'elle représente maintenant pour vous, Sonia Pierre, après l'écriture d'un roman ?
Alors effectivement, c'est se sentir de plus en plus proche, en empathie, en amitié, voire en amour avec le personnage, qu'il soit fictif ou qu'il soit vivant ou qu'il ait été vivant. En l'occurrence, c'est une femme de chair et donc... Effectivement, le lien qui se crée, il est très personnel et très intime, puisque j'ai fouillé dans sa vie, j'ai fouillé dans son itinéraire, j'ai essayé de comprendre les mécanismes qui l'ont amené à ce combat et qui l'ont porté. Et donc, il se crée effectivement une intimité qui fait que on endosse presque, enfin en tout cas, moi j'endosse presque les pensées, l'intimité, la vie du personnage.
Écrire sur Sonia Pierre, c'est aussi écrire sur la condition des Haïtiens qui se trouvent en République dominicaine. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer la condition des Haïtiens dans ce pays? Il faut rappeler que Haïti, c'est le pays voisin qui est un peu plus pauvre que la République dominicaine.
Qui est beaucoup plus pauvre que la République dominicaine. La République dominicaine, on la surnomme la Suisse des Caraïbes, et Haïti est l'un des pays les plus pauvres au monde, est un pays aussi sans État depuis pas mal d'années finalement. Donc c'est une situation complexe puisque les deux pays cohabitent sur une île que la frontière est poreuse, que évidemment l'attrait de la République dominicaine pour les Haïtiens est extrêmement fort et donc que l'émigration n'est pas du tout contrôlée. Et donc ils sont rentrés en République dominicaine de façon illégale pour trouver du travail. Peu régularisent leur situation. Donc leur condition, c'est la condition de migrants sans papier, une condition complexe, difficile. Bien souvent, on assiste à des rafles et des bus sont remplis d'Haïtiens qui sont raccompagnés à la frontière et qui vont repasser la frontière dès qu'ils le pourront pour effectivement trouver du travail et pouvoir procurer un peu d'aisance à leur famille. Donc c'est une situation complexe, une situation politique, économique, sociale extrêmement complexe.
Pour comprendre d'où tout cela vient, il faut revenir un petit peu à l'origine d'Hispaniola. Hispaniola, c'est l'île découverte par Christophe Colomb dans laquelle il va y avoir plus tard Haïti d'un côté et la République dominicaine de l'autre. Qu'est-ce qui explique que la moitié de l'île va devenir l'un des endroits les plus pauvres du monde historiquement et que l'autre moitié, c'est la Suisse des Caraïbes ?
Alors, la scission de l'île, elle est le résultat de l'histoire coloniale et des guerres entre Français et Espagnols. Donc, effectivement, d'un côté, les Français... L'île a été française, d'ailleurs, dans son entièreté pendant un temps. Puis, les Français ont récupéré la partie haïtienne quand les Espagnols avaient la partie dominicaine. Et il y a toujours eu une espèce de rivalité entre les deux pays. Des guerres, d'ailleurs, avec une occupation haïtienne de 22 ans du côté dominicain. Donc, c'est quelque chose qui a fait naître des rivalités, des haines, etc. Donc, alors, qu'est-ce qui explique que Haïti soit si pauvre ? Ben, très tôt, finalement, et on peut en remercier Trujillo, ce serait peut-être un de ses seuls bons points sur sa gouvernance, c'est qu'il a interdit l'abattage des arbres. Et donc, Trujillo et son successeur, d'ailleurs Balaguer, ont fait en sorte que le pays ne soit pas déboisé. Donc, c'est quelque chose de qui paraît évident aujourd'hui. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, l'interdiction de couper des arbres, eh ben, la guerre a fourni à chaque foyer dominicain un système pour cuisiner au gaz avec des bonbonnes de gaz. Et donc, dès le début du XXe siècle, finalement, la République dominicaine a gardé sa couverture de forêt. Alors que de l'autre côté, les Haïtiens cuisinaient au charbon de bois, donc coupaient, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un arbre en Haïti, et que donc les pluies ravinent les sols, que la terre ne retienne pas, enfin que la terre ne soit pas retenue, qu'on a des coulées de boue à la moindre tempête tropicale, on a des catastrophes naturelles qui sont amplifiées par ce phénomène. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une misère noire parce qu'ils n'ont même plus de quoi cuisiner, c'est-à-dire qu'ils achètent du charbon de bois en République dominicaine.
Encore aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'est très clair, quand on survole le pays, on voit la frontière. En avion, on voit la frontière. D'un côté, c'est marron, de l'autre côté, c'est vert. Donc, c'est un combat écologique, finalement, avant l'heure, mais qui a porté ses fruits, puisqu'en République dominicaine, on a de belles forêts qui sont protégées et qui ont permis au pays de mieux résister à toutes les tempêtes et catastrophes météorologiques, les cyclones, les tempêtes tropicales. Voilà.
Donc, votre héroïne bien réelle, Sonia Pierre, naît en 1963, 2 ans après la mort de Trujillo, qui laisse donc le pays dans un état économiquement à peu près stable, ce qui n'est pas si mal pour un dictateur. Mais par contre, vous racontez l'histoire de Sonia Pierre. En revanche, vous ne voulez pas rentrer dans sa vie intime, dans votre roman. Pourquoi ne pas avoir choisi d'éclairer ce qui la rend la plus humaine, finalement, son intimité ?
Je crois que son combat la rend très humaine. C'est une femme qui se bat pour sa communauté, qui se bat avec tout son cœur, et je pense qu'elle est très humaine. Le fait de ne pas rentrer dans sa vie intime, c'est-à-dire de ne pas raconter finalement sa vie familiale, son mari, ses enfants, c'est un choix délibéré, d'une part parce que c'est une femme qui toute sa vie a été extrêmement discrète. J'ai eu quand même beaucoup de difficultés à trouver des informations sur elle, à part quelques interviews en radio, radiophoniques, sur des ondes haïtiennes par exemple. Donc c'est une femme qui est restée toute sa vie extrêmement discrète. Elle a son mari, ses enfants sont toujours en vie, ses petits-enfants. Donc je voulais pas rentrer dans une histoire familiale. Mon propos, c'était vraiment de raconter la militante, son combat. Et finalement, pour raconter son intimité, je suis passée par un autre personnage, un personnage que j'ai inventé, qui est son amie d'enfance, Kerline, qui va être une espèce de miroir tendu à Sonia. Sonia pour lui montrer effectivement ce à quoi elle a échappé et pour qu'elle puisse mesurer effectivement tout le chemin parcouru et ce qu'elle est devenue. Donc c'est Kerline qui va être le personnage fictif et qui va permettre de raconter l'intimité de Sonia et de la romancer. Quant à Sonia, j'ai vraiment voulu la laisser dans son rôle de militante et dans sa vie et son combat de militante.
Le bonheur du romancier, c'est d'être omniscient. Quelle voix avez-vous choisi pour raconter l'histoire de Sonia Pierre? Est-ce que c'est un roman où le narrateur raconte, c'est-à-dire le narrateur romancier extérieur, ou est-ce que vous avez choisi un point de vue intérieur?
Non, c'est le narrateur omniscient qui raconte et qui a toutes les libertés, donc c'est absolument formidable.
J'imagine. Quelle est la situation des Haïtiens aujourd'hui en République dominicaine? Ils sont reconnus comme des citoyens pleins et entiers ou sont encore des citoyens de seconde zone?
Tous les cas de figure existent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en situation parfaitement légale, des entrepreneurs qui travaillent, qui vivent en République dominicaine. Il y a des travailleurs pauvres, on va dire, qui sont principalement employés dans les métiers de l'agriculture et du bâtiment. Et dans ces travailleurs pauvres, beaucoup sont sans papier ou entrés dans le pays de façon illégale, donc susceptibles d'être renvoyés de l'autre côté de la frontière à n'importe quel moment.
Aujourd'hui, quelle est la situation de la République dominicaine? Est-ce que c'est toujours une forme de dictature ou est-ce que c'est une démocratie?
Non, il y a bien longtemps que la dictature est oubliée. C'est vraiment une période de mauvaise mémoire. Donc, c'est un pays qui fonctionne avec une démocratie à l'américaine. Et d'ailleurs, les prochaines élections présidentielles auront lieu en mai. Donc, c'est une démocratie qui fonctionne plutôt bien. Et un pays qui a vraiment pris la modernité à bras-le-corps. C'est-à-dire que depuis, on va dire, une dizaine d'années, le pays s'est extrêmement bien développé au niveau des infrastructures, des routes, des équipements de santé, etc. Donc c'est un pays qui fonctionne plutôt bien.
Bon, Catherine Bardon, pour terminer cet entretien passionnant, on veut une exclue. Est-ce que vous envisagez un nouveau roman sur la République dominicaine?
Je pense que mon prochain roman se situera dans un autre pays. Je vais vous emmener dans un autre voyage un peu plus lointain, probablement au cœur du Pacifique.
Oh, on en veut plus, un tout petit peu plus. Où ça?
Non, c'est trop. Franchement,
c'est
trop tôt pour en parler.
Mais quel art d'utiliser.
Ça n'est encore qu'un projet, donc voilà.
Et ce sera un roman historique.
Ce sera plus un roman d'aventure.
Eh bien, on a hâte de vous lire. Merci beaucoup, Catherine Bardon. Je rappelle que votre dernier livre, Une femme debout, raconte l'histoire exceptionnelle de la militante des droits humains Sonia Pierre et qu'on retrouve ce livre aux éditions Les Escales. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Nathan Laporte et Caroline Garnier. À la direction artistique, Julien Tarot. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis, à la communication et à la diffusion, Marie Corpet et Nathan Laporte. Et moi, je vous retrouve tous les jours au cœur de l'histoire pour un nouveau récit et chaque vendredi pour une nouvelle interview sur toutes les plateformes de podcast et sur nos antennes à 15h tous les week-ends. À bientôt.